grand témoin. Heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et dans ce studio avec moi, Jean-Pierre Singa-Lukavu, directeur provincial à l'RTNC Katanga, plus de 40 ans dans le métier de journaliste. C'est pas peu. Bonjour Monsieur Jean-Pierre Singa-Lukavu.
Bonjour Kelly, écoutez, et content de faire votre connaissance.
Content aussi de vous recevoir dans ce studio des Radio Okapi. Et avec vous dans cet entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous allez nous parler de votre expérience dans le métier de journaliste. Plus de 40 ans, c'est pas donné à tout le monde.
C'est la grâce de Dieu.
On va faire un grand pas en arrière avant de parler de votre expérience dans ce métier. Pour parler de votre enfance, vous êtes né à Lubumbashi?
Je suis né à Fariama, dans les territoires de Kolé. Et au Kasaï oriental, le 12 décembre 1950.
C'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études primaires. Et en 1964, lorsqu'il y avait la rébellion moliliste, c'est alors que j'ai découvert dans mon enfance que nous n'étions pas originaires de ce coin. Et nous avons été refoulés par les autochtones et nos parents avaient cherché les origines et nous sommes arrivés à Lodja, ensuite à Katakokombe et enfin, toujours dans les Katakokombe, on a passé, notre village était devenu Okitodimba, mais toujours dans le Katakokombe.
Ça ne devait pas être facile pour vous.
Bon, on était jeunes, donc à cette époque-là, je crois, j'avais...
Oui, justement, en étant jeune, il fallait vous déplacer parce qu'il fallait retrouver votre village.
Bon, c'était les parents qui avaient cette tâche-là. Nous, on était innocents, on ne savait rien.
J'imagine que vous avez fait ça à pied.
Non, on n'a pas fait ça à pied. Pour la petite histoire, parce que vous voulez que je vous dise tout, Kelly, lorsque les forces, l'armée nationale congolaise de l'époque... était entré dans mon village, j'avais, ou j'ai, si vous voulez, une petite sœur qui était très jolie. Alors, elle était enlevée par un adjudant de cette force publique, et cet adjudant qui a pris les forces de notre sœur s'était occupé, bon, à quelque chose de malheureux et bon, de notre protection. Et il avait mis un véhicule à notre disposition pendant que ça brûlait à coller, ce qui nous a permis de nous amener à Benedibele, ensuite à Lodja, et où nous sommes arrivés avant de gagner Okitodimba, Djalo et le reste.
Et c'est à Okitodimba où vous avez commencé vos études?
Bon, j'ai commencé mes études, j'ai étudié à des endroits très différents. Parce que lorsqu'on arrivait de Kolé, d'Ibélé, ensuite à Lodja, nous sommes allés à Djalo, et mon frère qui était enseignant, il m'écoute bien, je le remercie d'ailleurs, s'était occupé vraiment de mon éducation, parce que déjà, mon père était déjà trop vieux, et ma mère l'était aussi. Alors, c'est lui qui m'a permis d'étudier, et à l'époque, et après l'école primaire, je suis venu à Lodja, pour l'école qu'on appelait à l'époque les cycles d'orientation. Ensuite, les humanités littéraires. C'est là que j'ai...
Toujours à Lodja.
À Lodja, c'est là que je connaîtrai un certain Mende Lambert, qui était mon collègue, en troisième et en quatrième littéraire.
Comment vous vous retrouvez à Lubumbashi?
Bon, je me retrouve à Lubumbashi parce que, pour des raisons d'études, après avoir fait mes 6 ans d'humanité, cette fois-là à Tchoumbé, à la mission catholique Tchoumbé, comme tout jeune, bon, j'aspirais à devenir quelqu'un un jour dans ma vie. J'ai enseigné en 71 au petit séminaire de Djalo. J'avais fait mes économies, ce qui m'a permis de venir étudier à mes frais à l'université de Lubumbashi, où je tenais à faire les études de journalisme. Malheureusement, à peine que j'arrivais, l'institut était déplacé pour Kinshasa. Alors moi je suis resté ici, j'ai fait autre chose que les journalistes.
Qu'est-ce
notamment.
Que vous avez fait?
Je suis licencié en philosophie et agrégé de l'enseignement primaire et secondaire degré terminal.
Et malgré la philosophie, mais vous avez fait toute votre carrière en journalisme.
J'ai fait la carrière en journalisme parce que je pense que... On est journaliste, on ne devient pas journaliste à mon avis. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez bien avoir fait du journalisme. Si vous n'avez pas une belle voix, Kelly ne passerait pas à Radio Okapi, même si elle a un doctorat en journalisme. Et moi, qui croyais avoir des dispositions pour faire le journalisme, après mes études en littéraire, donc en philosophie, parce que c'est une faculté de lettres, bon, ça m'a permis d'affronter le journalisme et jusqu'à totaliser 42 ans de métier.
Mais avant de vous lancer dans le journalisme, vous êtes passé par l'enseignement?
J'ai cumulé. Moi, je suis un grand cumulard. Pendant que j'étudiais à l'université, et j'enseignais à l'école secondaire.
Ici, à Lubumbashi,
oui. Où je suis installé depuis 42 ans.
42 ans, c'est pratiquement...
Ce n'est même pas votre âge.
C'est le nombre d'années que vous avez passé en journalisme, je voulais dire.
Oui, je vous ai dit, quand je suis arrivé à Lubumbashi, comme j'avais la passion pour le journalisme, en même temps que je me suis inscrit à l'université, en même temps que j'enseignais, parce qu'il fallait faire vivre ma femme, et le seul enfant que j'avais. Alors j'ai commencé ma carrière à la RTNC, à une radio qu'on appelait la radio La Fraternité Africaine.
Alors on va parler de vos débuts, oui, on va parler de vos débuts dans le journalisme.
Merci, bien, ouais.
Vous avez parlé des femmes, vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Bon, j'ai plus ou moins 16 enfants maintenant. Plus ou moins 16 enfants.
Plus ou moins 16 enfants,
ouais.
Maintenant.
Plus ou moins 16
ça
enfants.
Veut dire que
bon,
ça va continuer.
C'est-à-dire que malgré mon âge, je peux encore faire enfanter.
Vous êtes quand même trop vieux pour ça, non?
Ah bon, ça je ne sais pas. Moi, je veux bien mettre fin à 80 ans.
80 ans, mais
oui,
c'est beaucoup ça, trop.
Là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est faire ce que Dieu a demandé. Il nous a demandé de nous multiplier.
Et c'est ça qu'il faut respecter.
Pas vu ni l'âge de la femme, ni l'âge de l'homme.
Et vous respectez.
Je respecte
ce que Dieu a
si
demandé.
Je sens que je peux encore permettre la reproduction. Je dois continuer, même à 90 ans, si Dieu me prête vie.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Bon, les souvenirs qui m'auraient le plus marqué, c'est l'état de guerre dans lequel ma contrée s'est été retrouvée. Et vous l'avez insinué vous-même, ce qui a caractérisé la France, et notamment la violence qu'on avait vécue. Bon, et puis, ce qui m'a caractérisé le plus, c'est la disposition de mon père à élever ses enfants, quelles que soient les conditions. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que depuis sa mort, je vis selon cette philosophie qu'il a imprimée à l'ensemble de la famille.
C'est quoi votre plat préféré, Jean-Pierre Singalukavu?
Bon, comme tout originaire du Kasaï, principalement de Sankuru, avec...
Je peux deviner.
C'est Opongalajas, du riz aux légumes, donc... Légumes.
N'importe quel légume.
Bon, principalement les légumes manioc. Le fait de manioc.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir Jean-Pierre Singalukavu, directeur provincial à RTNC Katanga, plus de 40 ans dans le métier de journaliste. Parlons de vos débuts dans le journalisme, qu'est-ce que vous a attiré dans ce métier?
Bon, ce qui m'a attiré dans le journalisme, c'est à partir des professeurs que nous avions eus au collège de Loja. Nous avions eu des professeurs belges qui étaient d'origine flamande et même wallonne. Et ce sont ces professeurs qui se sont occupés de nous, hein, sur le plan, je pense, de l'expression française. Et c'est de là que j'ai eu vraiment la vocation, après avoir appris le français auprès de ces enseignants, de ces coopérants belges, que je pouvais traduire les messages à l'intention de la population à partir des organes officiels indiqués comme la RTNC.
Et donc c'est juste le fait d'avoir eu des bons professeurs, des Français qui vous ont...
Des Français. Et puis, à notre époque, nous faisions le journalisme sans le micro. Parce que je pouvais me mettre devant une classe pour commencer à faire la retransmission du match d'une manière imaginaire. Il n'y a pas de vocation plus que ça. Voilà.
Donc, et vous faisiez ça souvent quand
oui,
vous étiez jeune?
Oui, on était là et avec on prenait du papier et on le faisait rassembler au micro et puis on parlait. Donc on avait vraiment la vocation du journalisme.
Et personne qui vous a inspiré par rapport à ça?
Bon, parmi les personnes qui m'ont inspiré, il y avait à la voix de l'Afrique du Sud à l'époque, hein, je ne sais pas comment on appelait ça. Maintenant, c'est devenu le canal Afrique ou quoi. Mais il y avait un certain Hubert Beckers. Hubert Beckers, C'était un Sud-Africain qui avait travaillé ici à Lubumbashi à la voix de la fraternité africaine. Moi, je ne l'avais pas trouvé, mais j'aimais la façon dont il parlait. Je crois que je l'ai un peu imité.
Après vos études universitaires, vous vous lancez directement dans le journalisme?
Non, je ne me suis pas lancé dans le journalisme après les études universitaires. Je suis arrivé au Katanga, à Lubumbashi principalement, à 72, à 71, à 71 déjà. Quand je me suis inscrit à l'université, le but essentiel était d'étudier, de faire le journalisme. Alors, mais malheureusement, le journalisme, la faculté ou le département a été transféré à Kinshasa et je me suis contenté de faire le lettres, c'est-à-dire la philosophie. Et déjà à 72, en étudiant, à l'université, je me suis mis à enseigner. Les journalistes étaient gratuits, on collaborait sans perdre rien. Alors j'ai dû aussi, parce qu'il fallait de l'argent pour payer mes études et soutenir ma femme, je me suis mis à travailler parce que là, à l'enseignement, au moins on payait.
Et donc votre carrière professionnelle commence à la RTNC?
J'ai commencé à la RTNC comme bénévole. À 72 déjà, collaborateur extérieur, bénévole.
Vous avez travaillé d'abord comme bénévole, ouais, avant de signer un contrat avec la chaîne.
J'ai été engagé à la RTNC à 76 seulement.
Non, 76. Et donc de 72 à 76, vous avez travaillé comme bénévole.
Hein. Bénévole, mais agent, mais bénévole, sans engagement, sans numéro particulier. Donc, je n'étais pas sous statut à cette époque-là. Et à 76, nous avons eu... on est passé d'un collaborateur à un agent sous statut, c'est-à-dire de la fonction publique. Et puis après est arrivé l'office, la RTNC. Bon, on nous a reversé à l'office et où nous sommes aussi agents maintenant. Parce que nous avons deux statuts. Nous avons les statuts d'agent sous statut et les statuts aussi d'agent de la RTNC comme entreprise paritatique.
Agent sous statut, ça veut dire?
Bon, un fonctionnaire de l'État. Mm-hmm. Oui. Un fonctionnaire de l'État. Or, en tant qu'agent RTNC, je suis un fonctionnaire de l'État dans une entreprise paraétatique.
D'accord. Ouais. À la RTNC, vous aviez gravi presque tous les échelons.
Tous les échelons. Déjà, j'avais été remarqué par mes anciens chefs qui ont vu à l'époque que j'avais un beau visage. C'est plus le cas maintenant. Et ils m'avaient placé à la télévision comme présentateur vedette à la télévision. À l'époque, c'était une télévision noir et blanc. Et après, j'avais été élevé au rang de rédacteur en chef à la télévision. Et cette fonction, je l'ai exercée longtemps. Mais je voudrais vous dire en passant, Kelly, que moi, je n'ai pas fait une carrière à la RTNC au sein de la rédaction. J'ai fait la carrière surtout dans les cabinets politiques.
Vous avez travaillé avec beaucoup des gouverneurs.
Depuis 72, je n'ai travaillé que dans les cabinets politiques, vraiment inamovibles. J'ai fait 5 ans d'affilée avec le gouverneur Mandungu Bulanyati, qui est déjà décédé, paix à son âme. Ensuite, je travaillais avec Douga Kobetoro, aussi paix à son âme. Je fais 2 ans et demi avec lui. Et puis après, est arrivé Kouyagalma Setegirebo, qui est aujourd'hui gouverneur à l'Équateur. J'avais passé 2 ans et demi aussi avec lui. Après, sont arrivés les autres gouverneurs qui ne faisaient pas longtemps. Après, j'ai travaillé quand le président Mobutu avait démocratisé le pays. Bon, il a commencé à placer à la tête des provinces, les originaires. Mm-hmm. Et au deuxième mandat de Kyung Wakumanza, qui est actuellement le président de l'Assemblée provinciale, il m'avait pris comme son attaché de presse. Malheureusement, ça n'a pas duré parce que 3 semaines après, Mouzé est arrivé, donc j'avais quitté le cabinet. Bon, après l'arrivée de Mouzé, est arrivé Feu Augustin et Katumba Mwanké.
Bon, avec qui vous avez travaillé aussi?
J'ai travaillé avec lui, pas dans son cabinet, mais j'ai collaboré, parce que c'est moi qui faisais ses grands papiers. Ses grandes nouvelles, c'est moi qui m'occupais de lui. Et essentiellement les voyages à l'étranger, même à l'intérieur de la province, il me prenait. Bien que, en tant que directeur déjà, j'avais mon équipe de presse, mais m'ayant connu, il me rappellera un jour qu'il m'appréciait beaucoup parce que lui étudiait au collège Imara et il me voyait passer avec ma petite moto à l'époque et il m'admirait beaucoup. Alors quand il est devenu gouverneur, la première personne qu'il a cherchée dans la presse, c'était moi.
Et avec lui, vous avez travaillé pendant combien de temps?
Plus ou moins 1 an et demi. Et puis est arrivé Gaëtan Kakoudji, paix à son âme. J'ai travaillé aussi avec lui environ une année. Et après Gaëtan, je suis allé à Kinshasa et appelé par le ministre de l'époque de la communication, Raphaël Nguenda, auprès de qui j'ai exercé les fonctions de consultant. Consultant dans le domaine qui est le nôtre de l'audiovisuel.
Et vous êtes rentré
je l'avais aidé, je l'avais aidé à mettre en place les structures de la RTNC.
RTNC
National. Et à l'époque, à l'arrivée des musées, c'est moi qui présentais les éditoriaux à l'antenne, à Kinshasa, surtout pendant la guerre. Alors, je vais t'occuper aussi de ça.
La guerre de 98
Oui, donc peu avant que je ne vienne ici. Je suis venu ici pendant la guerre. Le motif qui m'a conduit, qui m'a fait rentrer à Lubumbashi, essentiellement,
il y a ma femme qui était,
ma femme était gravement malade. Alors j'avais fait comprendre à l'ancien ministre Nguenba que je devais être au chevet de ma femme. Alors il m'a libéré. Alors quand il m'a libéré, j'ai trouvé une situation tumultueuse à la tête de la station provinciale à ETNC. Comme les amis me connaissaient, connaissaient mon caractère, ils ont opté pour que je les dirige et j'étais plébiscité.
Il y a eu des élections ?
Par les élections, mais disons, il y avait un mouvement général qui m'a porté à la tête de l'ascension.
Pourquoi vous ?
Bon, la question serait peut-être posée aux amis qui m'ont placé là.
Vous n'avez pas posé cette question à vos collègues qui voulaient que vous soyez à la tête de la RTNC ?
Ma simplicité et quelque part mon altruisme, je pense que ce sont les facteurs qui ont beaucoup joué. Parce que là, on ne s'est pas occupé des origines.
Mais vous-même, vous étiez prêt à assumer cette sanction ? Vous sentiez prêt ?
Ça ne pouvait pas en être très bon. Parce que, ayant un bagage intellectuel suffisant, et ayant l'expérience, je ne voyais pas ce qui pouvait m'empêcher à devenir directeur. Pour preuve, Dieu a voulu que pendant 16 ans, j'ai tenu la direction. Les autres n'ont jamais fait longtemps ici. Après 2 ans, une année après, les gens étaient toujours dehors, mais moi j'ai 16 ans maintenant.
C'est quoi le secret ?
Le secret, je vous ai dit,
c'est votre altruisme
et la simplicité, et je crois que c'est les deux secrets. Il n'y a pas autre chose quand on dirige.
Est-ce que la RTNC Katanga est l'église au milieu du village ?
La RTNC Katanga au milieu du village, il faut toujours, moi je suis licencié en philosophie, je vous l'ai dit, il faut toujours relativiser. Il n'y a rien d'absolu. Et milieu du village, oui. Quand, par exemple, les intérêts de l'État sont sauvegardés, lorsque quelqu'un vient à la RTNC pour annoncer qu'il va faire une marche non autorisée, moi je ne dirais pas que non, monsieur, venez, c'est l'église au milieu du village, ici, passez votre communiqué, je refuserai. Donc, tout est relatif. Au milieu du village, dès que la paix sociale est assurée.
Alors, on dit qu'on accorde beaucoup plus la parole aux acteurs politiques de la majorité qu'à ceux de l'opposition.
Bon, vous savez, la notion de l'opposition dans ce pays ne m'a jamais convaincu. Parce que quelqu'un qui, le matin, disons, il est opposant, le soir, il est avec ceux qui sont au pouvoir. Bon, c'est difficile à savoir quand est-ce qu'il est opposant et quand est-ce qu'il ne l'est pas.
Mais lorsqu'il se présente chez vous en tant qu'opposant, pourquoi vous ne lui accordez pas la parole ? Vous ne lui accordez pas un espace pour s'exprimer.
Bon, vous savez, ça vient surtout de l'attitude même de ces gens-là qui se déclarent opposants.
On dit que vous avez plutôt une tendance, vous êtes beaucoup plus penché du côté de la majorité.
Non, vous savez, cette accusation-là est récurrente dans les camps des amis de l'opposition. C'est malheureux. Mais je vous ai dit les conditions de passage à l'antenne. Il y a les lois de la République. On vous dit, pour marcher, il faut absolument avoir toutes les autorisations de la mairie, commune, etc. Service de sécurité pour qu'on vous protège. Mais vous venez déposer un communiqué qui annonce votre marche et ce communiqué n'est pas accompagné de soubassement d'autorisation venant des autorités compétentes. Mais ça passe pas. C'est clair.
Jean-Pierre Sengaluka, on va souffler un peu. Comment vous vous occupez pendant vos moments de détente ?
Bon, la détente, je n'en ai pas assez parce que je suis partagé entre ma survie et l'échange public que j'ai. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On s'en occupe toujours.
Vous n'avez pas de moment de détente ? Vous passez tout votre temps à travailler ?
Pas. Le moment de détente, c'est surtout la nuit, si je dois dormir profondément, si je me détends.
Le dimanche, vous travaillez aussi ?
Le dimanche, je dois contrôler l'antenne pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de gens qui racontent n'importe quoi. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à maintes reprises, depuis que je suis directeur, il y a plusieurs personnes qui ont tenté de pénétrer dans le studio pour faire des déclarations d'une manière unilatérale. Alors, si vous êtes absent, vous qui dirigez la chaîne, vous voyez que c'est, personne ne vous le pardonnera.
Ça vous crée de problèmes.
Donc, il faut absolument être là pour surveiller. Surtout à des moments où vous savez, par exemple, que la classe politique est en train de s'agiter. Donc, c'est ça, les devoirs de ma charge. Et c'est ça qui a permis aussi que je tienne. Parce que si j'étais un directeur qui se réveille le matin, il est dans un débit de boisson du matin au soir et il ne sait pas ce qui se passe, je ne serais pas là. Pour votre information, depuis ma naissance, j'ai jamais bu d'alcool. J'ai jamais bu de sucré. Je prends de l'eau 1.3.
Depuis que vous êtes né?
Depuis ma naissance, depuis que je suis là.
Mais pas de sucré, depuis que vous êtes né?
Jamais, jamais de la vie. Donc je ne suis pas distrait. D'ailleurs, je me rappelle de ce qu'avait dit l'ancien gouverneur Mandungu à l'époque. Il s'étonnait. Il disait, mais il n'a jamais vu un journaliste qui ne buvait pas d'alcool. Moi, je me demande si ce n'était pas ça le motif du long séjour que j'ai passé à côté de lui. Il me dit, non, mais tous les journalistes que je connais, la plupart sont ivrognes. Mais monsieur Petit, vous ne buvez pas. Je dis, non, depuis ma naissance. Je tiens ça de mon père, qui était un grand ivrogne. Il avait vendu ses articles de luxe. Et puis, quand il est tombé en faillite, il s'est rendu compte que la boisson l'a conduit à la faillite. Et il a interdit aux gens, à ses enfants qui naissaient, de ne pas boire.
Mais est-ce que vous arrivez à écouter de la musique?
J'aime bien la musique. J'aime bien la musique.
Quel genre de musique vous écoutez?
Bon, j'aime écouter j'aime Kofi. C'est un gars qui chante bien. Il est très suffisant, mais bon, il chante bien.
Quelle chanson de Kofi vous ferait plaisir en ce moment?
Bon, surtout quand il chante avec...
Avec Cindy?
Avec Cindy, ça j'aime tout, ouais. J'aime tout.
N'importe quelle chanson de Kofi, mais avec Cindy, le duo Kofi, Cindy.
J'aime tout. J'aime aussi Fally. Il me berce bien. Il berce bien.
J'ai l'impression que vous êtes trop romantique, là.
Bon, mais c'est, vous savez, un philosophe ne peut être que ça.
Fally, Kofi, c'est souvent la musique douce. Il berce bien.
Mm-hmm. Pas de violence, oui.
D'accord, on va vous faire plaisir, ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, avec une chanson de Fally ou Kofi. On verra bien ce que la technique va nous proposer. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Ngangata, formez-moi dans la vie. Il y a toujours un secret moko to mi balé pour naïe moko. Thank you.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Pierre Singa Lukavu, il est directeur provincial à l'RTNC Katanga. Jean-Pierre Singa Lukavu, comment se porte l'RTNC aujourd'hui? Beaucoup de gens critiquent quand même les programmes de la RTNC, le programme que vous proposez aux téléspectateurs.
Oui, vous avez raison, et ces gens-là ont raison. La RTNC, quel genre de programme voulez-vous qu'elle passe? Ce sont les programmes du gouvernement. Lorsque, par exemple, j'ai une émission d'animation libre, ou bien une émission de débat, telle que nous sommes là, on m'annonce qu'il y a un point de presse à Kinshasa. Le ministre de la Communication a réuni les journalistes, et il fait sa communication. Tout à fait cessante, j'arrête le programme, madame. C'est cela. Les grilles de programme, même à Radio Okapi, sont des grilles qui sont faites pour longtemps. Mais nous, en tant que chaîne officielle, nous savons que la priorité est accordée aux informations sur la marche de l'État congolais.
Pas cette émission éducative, je ne vous juge pas, hein. Je rapporte seulement ce que les gens racontent par rapport au programme.
Ouais, ils ont raison, ils ont raison, et ça nous crée des ennuis avec les annonceurs. Si les gens ne viennent pas faire des annonces sur nous, pour la plupart des fois, parce qu'ils disent que notre grille de programme est très mouvante et qu'elle dépend des émissions de Kinshasa, pour les cas qui nous concernent. Je crois qu'ils ont raison. Mais toujours est-il qu'il y a des heures auxquelles notre antenne, nous la possédons. Par exemple, les heures du soir. Après le journal de Kinshasa, généralement, à 21h, heure de Lubumbashi, l'antenne est libre. Et nous passons des programmes. Même les pasteurs qui ont l'habitude de fréquenter notre chaîne, bon, ils se produisent, il n'y a pas de problème.
Mais par rapport à l'audience...
Bon, par rapport à l'audience, vous savez que nous avons perdu le monopole nous avons perdu le monopole.
C'est dû à quoi?
Vous pouvez trouver quelqu'un, vous savez, les gens sont capricieux, hein. Vous pouvez trouver quelqu'un, vous lui rencontrez, il vous dit non, mais moi je ne suis pas la RTNC. Je ne suis pas, oh, je ne suis plus la RTNC. Mais quand il y a une information qui passe à la RTNC sur la marche de l'État, par exemple dans un journal parlé ou télévisé, mais vous allez dire à la personne, non, je suis au courant, je le sais, la radio a dit. Mais vous, vous n'écoutez pas la radio, vous l'avez su, comment? Vous dites que vous ne suivez pas la RTNC. Quand est-ce que vous avez suivi les comptes rendus du gouvernement? Quand est-ce que vous avez suivi les points de presse du ministre Mende, les débats au Parlement? Vous avez suivi ça comment? Si vous ne suivez pas la RTNC, c'est faux. Chaque homme, chaque personne sait quand elle doit suivre quelle chaîne.
Mais vous êtes quand même conscient que vous avez perdu l'audience.
Nous n'avons pas perdu l'audience à cause de la qualité ou de la mauvaise qualité de notre programmation, non. Nous avons perdu l'audience à cause de la multiplicité de chaînes. Et les libéralismes sauvages dans le secteur audiovisuel, c'est ça qui est à la base.
Non, mais ces autres chaînes proposent mieux.
Non, c'est ça qui est à la base, si vous voulez, de la diminution de l'audimat, hein, de l'auditoire de la RTNC. Ce n'est pas à cause de la qualité de la chaîne, des programmes ou des équipements, non. Donc nous, à la RTNC, nous savons que sur 10 personnes, au moins 2 personnes, 3 personnes peuvent nous suivre, ce n'est pas mauvais. Dans un espace où il y a 24 radios, 15 télévisions, on serait égoïste de croire que tout le monde ne suivrait que la RTNC, la radio et la télévision, non.
Alors aujourd'hui, la RTNC Katanga est dans une politique de rajeunissement de son personnel.
Oui, avant de parler du rajeunissement du personnel de la RTNC, je voudrais mettre l'accent aussi, pour un peu vous donner raison, par rapport aux difficultés que nous avons. La grande difficulté de la radio nationale, du moins en ce qui concerne la section provinciale que je dirige, c'est le manque d'un émetteur en de courte pour couvrir l'ensemble de la province, qui est notre mission, au fait. Ouais. Parce que nous ne sommes pas la radio de Lubumbashi, nous sommes une radio provinciale, c'est-à-dire que nous devons couvrir l'ensemble de la province du Katanga. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous n'avons pas l'émetteur en de courte. Si aujourd'hui, partout à travers le pays, vous pouvez arriver et que les gens connaissent Okapi, ce n'est pas à cause des FM, c'est à cause des ondes courtes. Et ça, moi je pense que les législateurs, je pense que nos autorités doivent vraiment songer à mettre à disposition de la chaîne provinciale un émetteur ondes courtes pour permettre qu'on arrose l'ensemble de la province. Concernant la question que vous avez posée du rajeunissement des agents de la RTNC, bon, les cas que je connais, c'est la RTNC Katanga, 40% de nos agents sont vieux. Dont moi-même, nous sommes vieux. Mais ça ne dépend pas des agents eux-mêmes, ça dépend de l'État congolais, qui ne sait pas mettre en retraite ses propres agents, qui ne sait pas le payer. Alors, aujourd'hui, moi j'ai cet énergie, si on me met à la retraite, mais avant d'y aller, il faut qu'on me donne ma retraite, ma pension. C'est tout ce que les gens cherchent. Il y en a qui sont vieux, ils se déplacent difficilement. Mais ils vont partir à la retraite comment? Sans aucune garantie, c'est pour aller mourir. C'est ce que les gens refusent. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas avoir la retraite. Mais il n'y a pas une planification pour mettre les gens à la retraite et accompagner. Il y a des gens de chez nous qui sont allés à la retraite, ils sont allés mourir. Parce qu'ils n'ont même pas reçu les indemnités, les décomptes finaux et tout ça. Même s'ils en ont eu, mais combien? Moi, quelqu'un m'a fait rire dernièrement qu'au niveau de la radio nationale à Kinshasa, il y a une liste qu'on a affichée pour annoncer la retraite des vieux, mais les vieux ont déchiré le papier. Ils ont dit, c'est bien d'afficher, mais avant d'afficher le papier, allez, donnez-nous la bourse. Je crois qu'ils ont raison.
Vous encouragez les jeunes à s'élancer dans le journalisme, vous qui avez une expérience.
Oui, j'encourage les jeunes tout en vous apprenant que pratiquement 80% des agents de la RTNC maintenant, c'est moi qui les ai engagés. Et j'ai plus de 80 collaborateurs extérieurs. C'est moi qui les ai mis là. Donc nous encourageons la jeunesse à faire le métier. Mais le métier,
mais pas comment pour, réussir le métier,
pas pour s'enrichir. Parce que s'ils viennent pour communiquer, qui est une vocation originelle de tout communicateur, je pense que là, ils vont réussir leur mission. Mais s'ils viennent dans la presse pour s'enrichir, je vais le décourager. Mais si on vient pour communiquer, on ne s'enrichit pas. Nous, à l'université, lorsque nous étions en train de solliciter à faire le journalisme, on nous présentait toujours les dépliants qui annonçaient les potentialités pour chaque faculté, pour chaque département. Et je me rappelle qu'on avait annoncé les départements de journalisme comme étant un département de luxe. Ça, le journalisme, c'est un métier de luxe.
Vous avez plus de 40 ans dans ce métier de journaliste. Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué à ce jour?
Bon, le souvenir qui m'a le plus marqué, qui est compté, c'est essentiellement, je pense bien, 3 accidents d'avion qui ont failli emporter ma vie, ma petite vie. Le premier accident, c'est un matin. Le gouverneur Mandungu, à l'époque nous on les appelait les commissaires des régions, Mandungu Bulanyati, m'avait pris avec un ami qui est maintenant à Kinshasa, il faut toujours citer les gens, les noms des gens, c'est bien ensemble à l'Outala. Il est maintenant, je pense, le secrétaire général au Sénat. Il nous avait pris un matin pour aller à l'académie et nous étions dans un avion spécialisé de la Jukamine, c'était le jet, le dernier cri semble-t-il à l'époque. Et nous avions des pilotes vraiment expérimentés et qui nous amenaient sur l'académie, semble-t-il, à la demande du président Mobutu qui aurait appris que les rebelles, à l'époque, Moïse Laurent Désiré Kabila, se préparaient à menacer, à prendre le Moba. Et il aurait alors envoyé ses gouverneurs pour aller un peu s'en enquérir. Et c'est comme ça qu'un matin, nous avons été pris avec mon ami ainsi qu'un policier de la gendarmerie à l'époque pour accompagner ce commissaire de région. Mais à mi-chemin, l'avion avait été foudroyé et l'avion a eu tous les deux moteurs coupés. Et je ne sais pas par quel miracle, les deux moteurs ont été rallumés, alors que l'avion était en train de perdre de l'altitude. Et j'oublierai jamais ça. Je me rappelle que le gouverneur m'avait demandé de dire au pilote de rebourser chemin. Et le pilote m'avait injurié, dit « Imbécile, est-ce que vous ne voyez pas la mort ?» C'est pour tout vous dire, c'était aux oreilles de ces gouverneurs-là. Dieu merci, on a réussi à rebourser chemin, on est rentré sur Lubumbashi.
C'était en quelle année?
Disons, c'est à 85-86, donc si ma mémoire est bonne. Un autre accident, c'est après l'arrivée de Kouyagal Basotegirebo, l'actuel gouverneur de l'Équateur. Bon, nous l'avons accompagné avec le caméraman que j'avais, il est vivant dans chacun. Nous sommes allés à Kalebi et le gouverneur est rentré avec le premier avion. À la deuxième rotation, c'était M. Machaka et moi. Nous avons pris cet avion piloté par un jeune garçon de plus ou moins 18 ans. Il a existé dans cette ville de Lubumbashi une compagnie qui appartenait à un certain Ragusa. Et ce monsieur avait appris le pilotage d'avion à ses enfants. Et ces jours-là, nous, on a failli vraiment payer notre vie. Parce que le petit qui pilotait l'avion, il fallait faire 3h30 Kalemi Lubumbashi. Il s'est fatigué et il s'est autorisé avec son briquet d'allumer le feu qui était devant lui. Et les feux sont tombés sur la carlingue de l'avion, sur le tapis. Et pour éteindre le feu, c'est Machaka et moi qui avions utilisé nos urines pour le faire parce qu'il n'y avait pas d'eau dans cet avion-là. Et voilà que Dieu nous a sauvé la vie parce qu'on a réussi à éteindre le feu. Et le troisième accident, c'est ici en 1998-99, à la guerre. Peu l'ambassadeur Augustin Katouba Manqué, alors gouverneur du Katanga, il avait dit à l'actuel ministre des infrastructures Jean-Marie Kazadi de me prendre le matin pour l'accompagner à Kabongo pendant la guerre. Et arrivé à l'aéroport, j'avais trouvé une forte délégation des journalistes de la présidence dont j'étais expressément le nom et m'écoute là où ils sont. Il y avait une grande partie de l'avion qui était occupée par des policiers qui allaient en position. Et nous avons pris cet avion. Durant toute la carrière, je n'avais jamais vu, même pas entrer dans un DC-3. Et ce jour-là, voilà que c'est la première fois que je voyais cet avion en y entrant. Après 1h30 de vol, un des moteurs avait été purement et simplement calciné et au vu au-dessus de tout le monde. Tout le monde s'est mis à crier dans l'avion. On était avec le gouverneur Katouba Manqué. C'est alors que j'ai découvert en lui quelqu'un qui avait du caractère. Au moment où les journalistes, les policiers pleuraient parce que l'avion était en train de perdre l'altitude et qu'il y avait de la fumée dans la carlingue,
En tout cas, il n'a pas bronché. Je me rappelle qu'il me disait « Singa silence, Singa silence » dans l'avion, mais je ne l'écoutais pas. Et heureusement que le seul moteur qui est resté de cet avion nous a permis d'atteindre Kamina. Et avec l'appui de militaires zimbabwéens qui avaient à Kamina, nous avons pu aussi nous tirer d'affaire.
Plus de 40 ans dans ce métier de journaliste, avez-vous déjà été menacé dans le cadre de votre profession de journaliste?
Les menaces, on les reçoit chaque jour. Quelqu'un peut vous appeler, il vous menace. Parce que vous n'avez pas fait ce que lui pense que vous deviez faire. Ou alors c'est un journaliste qui a fait quelque chose opposé à la personne, au placé. La personne se permet de vous menacer. Il y a beaucoup de menaces qu'on subit. Mais on est vraiment habitué à ces menaces parce qu'elles sont tout à fait improductives. Je voudrais seulement vous dire que peu avant la chute du président Mobutu, il était passé ici quand... Gerebo était gouverneur ici. Alors Mobutu s'était rendu à la pêche à Kisanga, que vous connaissez bien, à la ferme présidentielle de Kisanga, et il avait caché à ses collaborateurs, le maître Nimi et les autres qui étaient dans son entourage, il leur a pas dit qu'il allait à la pêche. Mais le protocole m'a informé, Senga, vous êtes en retard, le président est allé à la pêche, est-ce que vous allez l'annoncer? Je suis venu, j'ai annoncé à la radio et à la télévision que ce jour-là, le président s'est livré une partie de pêche à Kisanga. Et j'avais été arrêté pendant 48 heures. Et c'est à son départ de Lubumbashi qu'il avait ordonné ma libération.
Que pensez-vous de la liberté de la presse au Katanga en particulier?
Bon, moi je pense que s'il y a un point sur lequel je félicite beaucoup les responsables de notre État, de notre pays, de notre province, c'est sur le chapitre de la liberté de la presse. La liberté de la presse est respectée. Je crois qu'il y a même une espèce de libertinage à mon avis. Parce que vous savez que, ayant travaillé dans un service public de communication comme la RTMC, nous avons une espèce d'autocensure. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour l'intérêt de la collectivité, mais ce n'est pas le cas dans les chefs des journalistes indépendants qui écrivent n'importe quoi. On les écoute dire n'importe quoi dans les radios, mais rien ne leur arrive. Je crois que c'est ça le signe des respects de la liberté de la presse.
Jean-Pierre Singa, c'était un plaisir de vous recevoir. Le temps passe tellement vite. Peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Kelly a écouté. Je crois qu'au nom de ma famille et du mien propre, je remercie vous-même ainsi que la Radio Capi d'avoir songé à m'approcher pour que je parle de moi-même. Le souhait que j'aimais, avant de terminer l'émission, c'est de voir nos autorités s'occuper des journalistes. S'occuper des journalistes. Et dans quel sens? Dans le sens de leur donner des salaires décents. Parce que ce sont des gens qui... Qu'est-ce qu'une autorité peut devenir aujourd'hui sans des journalistes? Qui les connaîtrait si on ne les citait pas à l'antenne? Mais je pense que nos autorités doivent faire un effort pour approcher à leur table des journalistes qui ont aussi droit à la vie. Et pour ça, je remercie personnellement le gouverneur Moïse Katumbi-Tshapwe, qui vraiment est un homme social, qui s'occupe bien de tout le monde, et aussi des journalistes.
Est-ce que vous dites qu'il s'occupe bien des journalistes, ça veut dire quoi? C'est pas lui qui doit payer les journalistes, c'est que je sache.
Vous savez, même si on a donné cet don, il y a des gens qui ont de l'argent plus que Moïse là, mais ils ne donnent pas. C'est ça la vérité.
Ça, c'est pas le coupage, ça?
Ah non, c'est pas le coupage. Si quelqu'un, par exemple, je viens dans votre studio, vous me donnez un verre d'eau, vous me coupez en quoi? Vous me permettez peut-être de bien parler. Vous me permettez peut-être d'avoir la gorge en état de communiquer. Ce n'est pas le coupage. Lorsque, par exemple, moi, je fais mes duplex à la Radio Nationale sur Moïse Katumbi-Tshapwe et qu'il me paye, ce n'est pas le coupage. Il paye mes services. C'est l'habitude que chacun devait avoir. De payer les services. C'est cela. Vous savez, par exemple, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la faillite, si je dirais, de la RTMC? C'est n'importe qui vient là-bas. Personne ne veut payer les services. La RTMC Katanga vit avec la dotation du gouverneur Moïse Katumbi-Tshapwe, en dehors des salaires qui sont payés par l'État aux agents. Ceux qui viennent là-bas pour passer leur message, même privé, ne veulent pas payer. Et le pays ne peut pas se développer de cette manière. Si les gens ne vivent pas dans un esprit d'altruisme, si les gens ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à leur famille et à leur personne, il n'y aura pas de développement dans ce pays.
Jean-Pierre Sengaloukavo, merci.
Je vous remercie infiniment, Kelly Kouté, d'avoir pensé à moi. J'ai toujours été l'un de vos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jean-Pierre Singa-Lukavu, directeur provincial à la RTNC Katanga, plus de 40 ans dans le métier de journaliste. Merci à Jean Gando qui nous a aidé à préparer cette émission. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.